place means nothing to me, I can be at home anywhere. Phrase de Jonas Mekas, cinéaste lituanien naturalisé américain à son arrivée.
Et ce qui veut dire, les lieux n'ont aucune signification pour moi, je me sens chez moi, partout.
En effet, merci Clément. Donc Gauthier, comment t'as... Est-ce que tu connais Jonas Mekas?
Oui, je connais... La première fois que j'avais vu un film de lui, c'était au Ciné-Club, de la Cinémathèque. Et c'était le court-métrage Not Seen the Circus. Film... Il filme, je crois, c'était... attends, je me souviens plus, il me dit pas, c'était une fête dans un... Bah, c'était dans un cirque, je crois,
ça,
avec
cirque,
des numéros,
fait,
un truc assez saccadé, quoi, vachement...
Mais c'est du tourné-monté avec
ouais.
sa caméra, quoi. Il fait le montage dans
oui.
sa caméra, il rembobine, il...
C'est un montage impressionniste.
On peut dire
avec
ça
plein de
ça.
Couleurs, on comprend pas très bien ce qui se passe.
Mais t'avais bien
c'est
aimé.
C'est une impression. Ouais, carrément, ouais. Après, je connais pas trop Jonas Mekas, j'ai pas trop regardé. Même si j'aime bien tout ce qui est home movie, enfin sur YouTube, je regarde beaucoup de films de famille, tout ça, je trouve ça.
C'est pas mal, c'est
je trouve ça.
Films de famille.
Ouais.
Même par rapport
ouais.
à la citation de la maison, tout ça.
Parce que toi, tu te sens parfois à la maison partout, enfin dans certains films.
Quand je regarde certains films,
ouais.
Que je me sente à la maison. Bah non, justement, parce que quand je regarde un film, je suis chez moi, dans ma maison à moi, là où je dors. Et quand je regarde un film, je m'évade un peu, quoi. Je sors de la maison, quoi. Je vais peut-être dans une autre maison. Je vais dans la maison du cinéaste, en fait, ouais.
C'est pas mal,
donc,
ça.
Donc, je découvre un autre truc, je me sens pas chez moi, je me sens chez quelqu'un d'autre. Et j'essaye d'apprivoiser...
D'accord, c'est quand même agréable, quoi. C'est...
Ah bah, ça dépend le film, hein. Si tu veux, chez Haneke, je me sens pas chez moi, tu vois. Je suis même pas très bien, quoi.
Et chez Jonas Mekas, tu te sens chez toi ou pas quand t'as regardé Not in the Circus?
Peut-être dans une façon de donner une impression de ce que ça fait que d'être dans un cirque, tout ça. Peut-être dans une esthétique que j'aime bien. Ça, ouais, je me sens chez moi, peut-être dans cette, je sais pas, filiation cinématographique de remodeler un peu le réel, de le tordre, de le recomposer pour donner une impression. Ouais, ça, ouais, ça me touche, ouais. Ouais, ouais.
Ok, bah c'est une bonne introduction. pour te présenter, on peut dire que t'as fait un master réalisation.
Tu veux que je me présente?
Paris.
Bah déjà avec Clément, on s'est connus en licence humanité à Nanterre.
Voilà, ça remonte.
Donc c'est ici qu'on s'est connus. Après, j'ai fait 2 ans de réalisation à Paris 8.
T'es en train de finir ton film, c'est
ouais,
ça?
Ouais, je finis mon film en ce moment. Et donc, avec des copains, on commence à fabriquer des films, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte d'une manière assez pragmatique, en fait, que le truc qui nous manquait à nous, bah, c'était la production, quoi, de produire les films et tout. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas pour les copains apporter sa petite pierre à l'édifice. Je savais rien faire, hein. De faire un film, c'est assez simple, hein. Mais par contre, faire la lumière, le montage, c'est des trucs assez techniques. Et moi, je savais rien faire et je voulais savoir faire un truc, quoi, vraiment. Et donc, la production, bah, production, pas au sens ingénierie financière, tout ça, c'est pas le truc qui me. Mais plus de se dire d'accompagner quelqu'un, de le produire. Mmh. Pour moi, le producteur est aussi artiste au sens où il décide de produire quelqu'un, donc il lui donne la parole aussi, quoi. Donc, il rend audible un truc, quoi. Donc, ça,
il y a un vrai choix, quoi.
Ouais, carrément. Demande. Pour moi, il y a, je sais pas, une sorte. C'est une sorte d'accouchement, quoi. C'est un accoucheur de talent, quoi. C'est. Ouais.
Pas mal. Un Socrate des films.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais un film, c'est ça, hein. Par définition, le cinéaste, c'est un gars qui a pas les mots pour dire ce qu'il pense, donc il va aller vers les images, quoi. Et souvent, bah, ces images, elles sont dures, c'est dur de mettre des mots dessus pour trouver des financements, tout ça. Et c'est là où le producteur, peut-être, qui va essayer de trouver les mots, de l'aiguiller pour savoir où ça peut aller, quoi. Mm-hmm. C'est une aide, en fait, pour moi. C'est quelqu'un qui se donne, quoi, profondément. Je trouve que c'est un très beau métier, ouais. De don de soi, je dirais, ouais. Yes.
C'est beau. Donc on va peut-être passer au portrait. Donc on se demandait, si tu étais une main au cinéma, quelle main tu serais?
Alors je sais pas si c'est une émission archi-cinéphile où je peux vraiment dire ce que...
Tu peux dire ce que tu veux.
Parce
qu'au
début, ok. La main, j'en ai pas mal, j'y ai pas mal réfléchi. Alors au début, évidemment, il y avait le truc Love and Hate là, avec les mains là.
De
truc,
Robert Mitchum dans...
Ouais, voilà,
ouais,
un truc...
C'est ça.
Bah complètement... C'est assez manichéen, quoi, le bien et le mal, un truc assez catho, quoi, le diable, l'ange et tout. Et j'avais pensé après, bah, la main de pickpocket, quoi, mais je me disais, non, Bresson, ça fait pas chier, et ça fait un peu, enfin voilà. Et j'ai pensé à un autre truc, alors, un souvenir dans Spider-Man 1, quand il y a Spider-Man qui vient sauver Mary Jane parce qu'elle s'est fait embrouiller, je crois, par des mecs, tout ça dans la rue, et puis elle finit par l'embrasser, il a la tête en l'air comme ça, lui enlève son masque et puis elle pose sa main sur la joue comme ça. Et je me souviens quand j'ai vu ce film, je rêvais qu'une fille me touche la joue comme ça et elle l'embrasse avec sa main. Comme
avec
ça,
le baiser à l'envers.
Exactement, ouais.
Ah mais c'est mythique, ça.
C'est une scène absolument mythique,
ouais. Incroyable. Ouais, ouais.
Donc une main
douce et amoureuse.
Ouais, c'est ça, ouais. Et puis surtout, il vient de se passer une scène archi-violente, quoi, donc on a ce...
Qu'est-ce qui s'est... Il vient de se passer quoi, déjà, attends?
Bah, Spider-Man, tu sais, il y a des voyous qui viennent un peu harceler Mary Jane, donc enfin Kirsten Dunst dans le film, et puis elle est toute seule, et puis il y a Spider-Man qui, bah, ça fait un peu flipper, quoi, parce que Spider-Man, il la suit tout le temps, quoi, pour voir, déjà, ça, il la sauve quand même, quoi, donc déjà, ça fait un peu flipper, quoi, mais bon, c'est pas grave. Et bah, il voit qu'elle se fait attaquer et puis il va défendre sa bien-aimée, quoi. Ouais, c'est Dulcinée. Il y a un truc un peu prince charmant, ouais, et puis il pleut, tout ça. Enfin, je sais pas si t'as le plan, ils sont tout trempés, il y a un truc archi romantique, quoi. C'est...
Ah, mais elle est très belle cette scène.
Hein. Ouais, ouais, ouais.
Et si t'étais maintenant, en transition, une danse dans un film?
Ouais.
Si t'as des idées de danse.
Ah, ouais, bien sûr. Bah, ah. L'idée de danse qui me vient directement, c'est la scène de fin dans Beau Travail, quand Denis Lavant, c'est marrant parce que c'est une scène, ça n'a rien à voir avec le reste du film. On est toujours dans un camp de légionnaires, tout ça. Mais c'est un mec qui se souvient de ses moments dans la Légion, enfin ses derniers moments dans la Légion avant qu'il se fasse radier de l'armée. Et puis en gros, donc Denis Lavant, enfin dans le film, il est amoureux d'un nouveau soldat qui arrive, un soldat qui est archi charismatique, donc joué par Grégoire Colin, et qui occupe tout l'espace, enfin tout le monde est fan de lui, et Denis Lavant est complètement jaloux de lui parce que enfin derrière il y a un peu une histoire d'homosexualité refoulée, tout ça, et puis donc il se fait radier des ordres, il perd tout, et puis à la fin il y a une scène de danse sur une musique, enfin il est dans une boîte de nuit tout seul, une scène qui dure 6 minutes ouais, qui est super puissante, ouais, c'est marrant, enfin ça c'est le truc de Claire Denis, quoi. La scène a rien à voir avec le film avant, mais c'est juste c'est vachement c'est très plastique comme truc, quoi. Tout d'un coup ça arrive, c'est un mec qui danse, qui lâche tout, quoi, tout son corps, alors qu'il était vachement raide tout le film, tu vois, il se tient comme un soldat tout le temps.
Et puis elle a su utiliser le corps de Denis Lavant, qui est quand même il a un corps de fou, enfin il a fait du cirque dans tous les, enfin il a tellement dansé dans les films dans lesquels il jouait, enfin c'est une de ses meilleures scènes de danse, quoi.
C'est un animal, quoi, dans cette scène. Il y a son corps, il est complètement tendu, il est ouais. Sinon il y avait peut-être dans Magnolia, le moment où ils font du dans Boogie Nights, le moment où ils font du disco, ils sont tous Mark Wahlberg je me souviens jamais des noms d'acteurs, mais bref, c'est une scène de disco aussi où ils dansent la première fois qu'ils dansent dans une boîte et tout, enfin trop marrante, ils occupent tout l'espace et puis ils filment en plan séquence Paul Thomas Anderson avec la caméra qui bouge autour d'eux et tout, ouais, c'est super,
c'est virtuose, quoi, c'est...
ouais. Et s'il y a une autre scène de danse, Richard Linklater et Everybody Wants Some, la scène, ça se passe dans les années 70-80, je crois, un truc comme ça, et puis c'est vachement marrant, quand il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et c'est l'équipe de baseball, les mecs un peu, enfin les gros beaux gosses, quoi, et tout machin, qui viennent danser avec les filles et tout, qui les invitent à danser. Ouais, donc c'est trois scènes de danse, ouais.
On va passer... notre deuxième partie
du portrait, donc tout ce qui est lié aux circonstances dans lesquelles tu vois un film et aux sensations physiques que tu peux ressentir, et on en a sélectionné quelques-unes spécialement pour toi, et notamment la première. Est-ce qu'il y a un film, des films que tu préfères oublier, peut-être parce que ça t'a beaucoup angoissé, peut-être parce que ça t'a fait très très peur, parce que ou pas forcément, ou que ça t'a juste dégoûté, ou juste que c'était trop mauvais. Enfin bref.
Ah, que je veux pleurer, ah ouais.
Un film que t'as envie de, que t'essayes d'oublier, ou que t'aurais envie d'oublier si c'était possible.
Ouais, j'aimerais bien l'oublier, mais il était quand même magnifique. Bah, Mulholland Drive, ouais. Horreur absolue. Je l'avais vu à la bibliothèque. En plus, je l'avais vu à la bibliothèque de Nanterre en plein jour. Il devait être 14h et j'avais juste un casque, donc tu sais, t'entends plein de bruit à côté. Il y a plein de gens qui passent, et pourtant. Enfin, quand la tentatrice, soit c'est la cantatrice, elle dit silencio, je sais pas quoi, et là le film il bascule dans un autre truc. T'as le son qui s'arrête, tu sais pas quoi, t'as la caméra qui s'approche un peu d'elle, et elle dit silencio. Et pff, là tu, ouais, ça fait bien peur. Ouais. Ça c'est.
Oh, bah, de toute façon...
Mais j'ai pas envie de l'oublier non plus, parce que c'est un super film.
Et qu'est-ce qui t'a fait peur alors?
Bah, mais c'est compliqué à dire ce qui fait peur chez David Lynch, quoi. C'est un. En soi, c'est pas que ça fait peur comme si tu voyais un film d'horreur atroce, c'est pas comme si tu voyais Requiem pour un massacre, ou tu vois un roi d'ours sur glane, tu vois, tu vois. Là, c'est plus, je sais pas, des images, je sais pas, c'est des chocs traumatiques, quoi. C'est, Il arrive à aller. Je sais pas pourquoi ça fait.
Bah, c'est lié à l'angle. Enfin. Il y a une dimension onirique.
Mais en même temps, il y a un truc qui va pas. Mais c'est ça que ça me fait un peu comme impression.
Ouais, ouais.
C'est ça. C'est difficilement identifiable, quoi. C'est...
Ouais, je sais pas. On avait déjà discuté, je crois, mais je comprends pas pourquoi ça fait
ça. Après, oui, moi, je pense que c'est un des plus grands cinéastes de l'angoisse, en fait. Enfin, il a compris un truc. Enfin. Et c'est tellement. Après, le problème, c'est que si on digresse sur Lynch, ça pourrait durer deux heures, quoi. Mais effectivement, il est très très fort dans sa façon de créer du malaise, en fait.
Ouais. Et il y en a un autre aussi, j'avais vu Get Out aussi. Il est,
De Jordan
Peele, ouais, dans ce sens-là aussi. Quand t'as un des maîtres de maison qui court vers le héros du film, enfin le protagoniste, il est en train de fumer une cigarette dehors. Puis là, tu vois le mec arriver en face de toi, là. En train de courir en plan large, c'est...
Bah, il a su créer du malaise dans un autre genre, il est très très fort pour ça, pour le coup.
Ouais, t'es pas bien, ouais. Mais sinon, moi, j'évite de regarder des films qui me font un peu trop peur, qui m'angoissent trop comme ça, c'est pas... Ouais, j'évite un peu, ouais.
T'es pas
moi, j'habite un peu à la campagne, le soir, je passe par une forêt pour rentrer chez moi, parfois, genre, c'est... J'évite, quoi.
Et donc, un film entre potes où tu t'es senti extrêmement gêné de le regarder avec eux.
Ouais, alors moi, je regarde souvent les films tout seul. Dans ma chambre sur mon ordi.
Toi t'aimes pas regarder les... T'as besoin d'être seul pour...
Ouais, j'aime bien être seul, ouais. Pour moi ma chambre, enfin... On dit souvent, ouais, tu sais, on parlait souvent des... T'as eu pas mal de débats, sur la salle de cinéma, c'est un temple, on est tous ensemble, mais en fait ma chambre pour moi c'est aussi un temple, hein. C'est à partir du moment où je mets le film sur marche, enfin je suis dans mon écran, je suis dans le film comme si j'étais dans une salle, hein. Donc non, j'aime bien être tout seul, enfin c'est par mes yeux que je vois le film, hein. C'est pas par les yeux de... Par les yeux de personne d'autre, quoi. J'ai besoin de personne, enfin tu vois,
je comprends.
J'aime bien être évidemment. Parfois, je regarde des films avec ma copine et tout machin, mais souvent, c'est des films. Bon, je peux être ailleurs, je peux être sur le portable et tout machin, mais quand je suis chez moi dans ma chambre sur mon ordi, c'est aussi religieux. C'est le même rituel, bien mettre, de mettre mon portable sur mode avion, machin, tu vois, de mettre dans le truc, surtout de pas rater le début du film. Il y a un truc, je peux pas commencer un film au bout de 10 minutes, quoi. Je suis obligé de rentrer dans le film tout seul, enfin j'aime bien être tout seul pour le regarder. Donc non, des impressions de malaise avec des amis, non, j'en ai pas. Ou alors peut-être si, quand je regardais des films avec mes parents, quand j'étais petit et qu'il y avait des scènes d'amour dans les James Bond, tu vois, j'étais comme un gosse, j'étais pas l'amour, quoi, tu vois. je suis un petit dur, quoi, faut pas, quoi.
Mais alors du coup, tu regardes essentiellement des films sur ton ordinateur ou...
Ouais.
Ou est-ce qu'il y a des films justement que t'as pas. Enfin, en les voyant sur ton ordinateur, tu les as peut-être aimés ou je sais pas, mais tu t'es dit ah mince, c'est dommage de l'avoir regardé sur cet écran-là, j'aurais préféré le regarder dans d'autres circonstances, au cinéma par exemple. Enfin, est-ce que ça t'a fait ça pour quelques films en tout cas te dire ah merde, j'aurais vraiment.
Ouais, carrément. Après, évidemment, il y a l'expérience que tu fais du film en salle quand le film il est fait pour la salle avec du son et tout machin. Tu vois, Apocalypse Now. Mais tu vois, il est fait pour la salle avec le son qui arrive de tout Paris et tout machin. Après, moi, c'est pas le truc qui... Tu vois, pour moi, une association de plans, tu vois, un changement de plan à un autre, tu vois, un truc, pour moi, c'est la même que ça soit au cinéma, et c'est la même pensée sensible qui traverse le film, mais que ça soit dans ma chambre ou que ça soit dans le ciné, pour moi, les plans qui changent, c'est la même chose. La temporalité du film, c'est la même. La sensibilité qui traverse le film, c'est la même. La pensée qui traverse le film, c'est la même. Donc j'ai pas beaucoup de regrets par rapport à ça, mais évidemment des expériences de grands spectacles. Bon bah Le Guépard, j'aurais bien voulu le voir en salle, tu vois. Souvent les gros films comme ça, des grandes fresques romanesques, bon bah tu vois Le Parrain, les films de Coppola, tout ça c'est des trucs qui se regardent en salle, tu vois, c'est vraiment le grand spectacle, quoi, mais...
Ouais. Mais sinon, t'es touché de la même façon si t'es en salle ou si t'es derrière ton écran, en fait, ça va, toi, t'es...
Bah ouais, après, je sais pas, parce que j'ai rarement vu un film en salle et le même après sur mon ordi, quoi. Souvent, je fais... Donc...
Tu re-regardes jamais tes films deux fois
ou si, mais sur mon ordi, par exemple. Je sais pas si je me souviens pas de films. Mais par exemple, tu vois, il y a des films, tu vois, le film de Ang Lee, Un jour dans la vie de Billy Lynn, ou le film de Cimino, La Porte du Paradis, bon, bah, c'était parfait de les regarder en salle, quoi.
Ouais, parce que c'est
ça, j'aurais peut-être regretté, mais je l'aurais jamais su si je l'avais vu sur mon ordi, en fait, que... Après, évidemment, mon ordi, le son, c'est de la merde et tout machin, mais ouais, ça, c'est des films, heureusement que je les ai vus en salle, tu vois, Bah, c'est grand, quoi, enfin, je sais pas comment... Enfin, c'est...
Oui, je vois ce que tu veux
c'est
dire.
Immense, quoi, tu vois, c'est... Tout, enfin, l'histoire, les personnes, enfin, c'est tellement grand que t'es devant ton écran et tu regardes, quoi, t'as la tête en l'air, les yeux rivés sur l'écran, hein. Ça, c'est pas la même chose, c'est vrai que de ce côté-là... Mais après, ouais, c'est tellement compliqué... il faudra que... Je vais pas souvent en salle de cinéma, j'y vais même quasiment plus jamais, en fait.
Donc pas du tout, ou... Parce que ce qui compte, c'est plus d'en faire pour toi et de les voir quand tu le veux, selon tes conditions, en fait, ou... Ou t'as quand même envie, tu te dis parfois...
Ah ouais, ouais, parfois je regrette beaucoup. Bah là, il y a Synonyme en ce moment, donc je pense que je vais aller le voir quand même.
De... Ouais, c'est le nouveau film de Nadav Lapid.
Ouais, ouais, ouais.
L'ours d'or.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais non, mais je regarde plus beaucoup de films aussi depuis, depuis une bonne année maintenant aussi. En fait, j'en ai mangé beaucoup, 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 quoi, pendant 3-4 ans.
Ouais, donc
enfin, limite 2-3 fois par jour. Et puis moi maintenant, ce que j'aime bien, c'est le côté artisan, fabriquer des films. C'est ça vraiment que j'adore, quoi. Donc, évidemment, même si je regarde pas de films... quand je suis dans la rue, quand je fais des trucs, bon bah tu penses en plan, tu penses en montage, enfin tu vois
oui bien sûr.
Tu vois la pensée cinéma, elle se matérialise pas que quand tu vois un film aussi. Pour moi c'est même tu vois enfin
quand
tu vois enfin même quand t'es dans le train, enfin c'est bête mais quand t'es dans le train bon bah c'est déjà du cinéma parce que tu vois les paysages passer devant toi et c'est un long travelling tu vois parce que t'es posé dans un siège et c'est le même dispositif tu vois donc enfin, je sais pas, enfin, évidemment, t'as pas de personnage, t'as pas de truc, mais.
Oui, non, mais.
Mais je pense au cinéma souvent, mais pas en regardant des films. Mais évidemment, j'ai souvent des images qui me reviennent en tête et tout.
De films que t'as déjà vus qui te.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais.
Est-ce que t'as un film où tu t'endors systématiquement devant ? Tu regardes pour t'endormir.
Ah ouais, Magnolia, ouais, j'adore ce film, mais je le regarde pour m'endormir, ouais, j'adore ce film, ouais. Et je m'endors bien dehors.
Sachant qu'il dure 3 heures, que ouais, il est beaucoup trop long. Mais...
Je sais pas. Je le trouve trop beau ce film. Quoi.
Il me fait vraiment... t'endormir avec.
Et j'adore penser à ce film. Quoi. Je le trouve
en
méga beau.
En t'adores penser à ce
film. Ouais, j'adore Tom Cruise dans ce film. J'adore Tom Cruise, Julianne Moore, tout ça. C'est la vie ce film. Quoi. Dans toutes ses nuances, dans tout ce qui permet de plus tragique et de plus beau aussi. Enfin, je m'endors trop bien avec ce film. Quoi. Je le trouve magnifique. Quoi. Ah, c'est un de mes films préférés. Ouais.
Et tu t'endors, tu rêves de Magnolia parfois quand tu t'endors ou...
Ouais, ouais, souvent. Ouais. Ah ouais, ouais, carrément, ouais. Et puis même, surtout dans ce film, moi, il y a un côté très biblique, quoi. J'adore ces films qui voient tellement plus grand qu'eux, quoi. C'est comme les films de Richard Kelly, tout ça. Enfin, tu vois, c'est des films qui se veulent tellement grands, quoi. Tellement ambitieux. C'est pas la petite histoire.
T'as l'impression que quelque chose te dépasse en voyant les films, en
ah
fait.
Ouais, ouais, mais c'est surtout, c'est... Quoi, c'est... J'adore ces... Enfin, tu vois, c'est comme quand tu dis des trucs de Victor Hugo, c'est des mecs qui veulent te raconter
ouais.
Tout un pays, tout comme le monde il se crée, comme le truc. Enfin, tu vois, t'as les grenouilles qui tombent à la fin. Enfin, t'as un truc qui.
C'est complètement dément, ouais.
C'est incroyable, tu vois.
Les grenouilles qui tombent à la fin, on m'explique.
Une pluie de grenouilles, en fait.
Comme ouais. Un fléau.
C'est comme à la fin, c'est comme dans l'Apocalypse de Saint-Jean, quoi. Tu vois, c'est un truc qui arrive à la fin et en gros. C'est un film assez choral où t'as plein de personnages qui se croisent, qui se parlent et tout machin, plein d'histoires différentes. Et puis à la fin, le grand truc qui fait qu'ils vivent dans la même ville et qui vivent la même expérience, bah, c'est cette pluie de grenouilles qui. Ouais, je trouve ça super beau quoi. Et c'est adapté du film de Robert Altman de Shortcuts. Sauf que dans Shortcuts, c'est un tremblement de terre.
C'est vrai.
Ouais.
Non mais là on pourrait faire un top que ce soit dans les livres, dans les films de pluie, d'animaux, de
donc
grenouilles,
Xavier
de poissons.
Quand ça tombe des vêtements dans Laurence et Noyce.
C'est ça, on pourrait faire un top de pluie de trucs qui sont pas censés tomber.
Ça pourrait être une question, la meilleure pluie au cinéma. Ouais. Ça pourrait être un portrait.
Ça pourrait être un blow-up aussi. On lance un petit appel.
Le clavier, si tu veux
voilà, c'est ça. Et puis alors par rapport à la mémoire aussi, est-ce qu'il y a un film dont tu te souviens pas? À l'exception d'un détail, tu vois. Enfin, tu te souviens pas de l'histoire, par exemple, tu sais plus de quoi ça parle, mais il te reste soit une image particulière, soit une sensation, soit un motif.
Oui, ouais, je l'ai, ouais, mais j'ai un peu honte de le dire.
Non,
je veux le dire. Mais alors, je l'ai revu après, donc je m'en souviens. Mais alors, au moment où je l'ai vu, ouais, c'est. Alors, c'est Les Amants du Pont-Neuf de Louis Carax. J'avais complètement dormi pendant la séance. Mais je me souviens juste du feu d'artifice à un moment qui m'avait complètement réveillé. Je m'étais endormi après.
Ça va, il y a pire.
C'est Les Amants du Pont-Neuf chez les cinéphiles de Louis Carax. Ça le fait, quand même, tu veux pas dire ça. Et ouais, donc ça, ouais, le feu d'artifice, je m'étais réveillé.
Quand il danse sur le pont ?
Je sais pas, il y a juste un grand feu d'artifice. À un moment, il y a une roue qui tourne et tout machin. Je sais pas, une grande roue, la grande roue de Paris, je sais pas quoi, je me souviens de ça. J'ai ça, un feu d'artifice, la grande roue de Paris, une scène de nuit sur le pont, je me souviens que de ça. Après, je l'ai revu, donc, mais je l'avais vu un an et demi après.
Et c'était conforme à ton souvenir ou... Enfin, quand tu
te... je m'étais réveillé au moment parce que c'est un immense feu d'artifice, quoi, complètement tragique et tout machin. Donc, finalement, c'était l'image qui collait le plus au film, quoi. Donc, moi, j'avais ça dans.
Mais finalement, t'en avais une bonne image, du coup, c'était vraiment conforme à.
Ah ouais, ouais, carrément. J'étais sorti, j'étais content. Un immense feu d'artifice qui m'avait réveillé, c'était beau, c'était grand, c'était. Ouais.
Toujours
il y a pire comme réveil.
Ouais.
Et encore avec Denis Lavant.
Et encore avec Denis Lavant. Ouais, ouais, ouais.
passer à la petite surprise carte blanche de cette émission où tu dois nous décrire une scène de cinéma comme si tu y étais.
Comme si j'y étais. C'est,
tu vois, t'es à l'intérieur, c'est à 360 degrés. Tu peux avoir les odeurs aussi, les sons, les bruits environnants, tout. Mmh. Faut que tu t'imagines à l'intérieur.
Ouais, bah moi, ma. Une de mes scènes préférées, c'est un peu étrange de dire ça, bah, c'est évidemment c'est la tuerie dans Elephant.
Ouais.
Bah c'est marrant parce que même le film en fait est déjà à 360 degrés, comme si tu voyais tout au même moment. Bah, quoi.
Il est hyper immersif en fait, le film déjà.
C'est... Et c'est difficile comme exercice. Hein,
oui.
Ça. Je prendrais peut-être pas cette scène-là, alors quelle autre scène?
Mais tu peux tout tenter, tout dire, de toute façon après on pourra recouper.
Je prendrais pas ça. Alors moi j'adore les scènes où ça mange au cinéma. Donc peut-être la scène dans Les Affranchis, dans la prison où ils préparent le ragoût italien. Et quand je vois cette scène, j'ai l'impression d'être en Italie, j'ai l'impression de sentir la tomate qui est en train de confire dans la poêle avec l'ail qui est coupé complètement finement, et j'ai l'impression de voir les mecs à côté en train de raconter leur dernier crime, ou alors de prévoir un nouveau crime, d'aller tuer, je sais pas, un mec qui les embête dans leur business, je sais pas quoi, et les mecs qui préparent complètement consciencieusement leur viande à mettre dans la sauce. Ouais, je pourrais pas aller plus loin, c'est compliqué, mais ouais, peut-être cette scène là comme si, je sais pas, ça va comme truc ou...
Oui, ça va, mais oui, ouais, bien sûr,
je reste insatisfait.
Ça sent d'autres choses que la tomate, il y a d'autres odeurs ou...
Bah il y a d'autres odeurs, c'est dans une prison, donc c'est complètement poisseux, il n'y a rien, cuire leur steak sur des vieilles poêles et tout. Il y a une salle de musculation à côté, enfin faut s'imaginer des mecs archi-stock qui prépare le déjeuner comme si c'était la mama italienne qui le faisait, quoi. Donc t'as un décalage entre des mecs qui devraient être en train de dégorger un mec à côté, mais non, ils font la bouffe avec leur gros bras et tout machin, quoi, comme s'ils parlaient de... Enfin, je sais pas, ils ont fait des trucs horribles, ces mecs, quoi. Ils tuent des gens, ils de leur prison, ils commanditent des assassinats, des trucs, et puis... Enfin, le décalage qu'il y a, comme les bons Italiens qui préparent leur repas, parce que c'est super important, comme s'ils étaient un peu en pause, je trouve ça... Avant de reprendre les affaires, je trouve ça génial.
Et malgré l'atmosphère un peu poisseuse, t'as faim ? Enfin, ça te donne...
Ah ouais, j'ai super faim. Ouais. Bah même, enfin, t'inquiète pas, il y a des livres de recettes sur ça, sur vraiment la recette que Poli fait dans sa prison, quoi. Genre, c'est la vraie recette. Il met des côtes de porc, il met de la viande, il met de la chair à saucisse, il met, tu vois, de la viande de bœuf.
Je crois que la nourriture chez Scorsese, c'est hyper important. Hein. Il y a un documentaire où il filme sa mère en train de faire à manger aussi. Peut-être que c'est une recette de la mère de Scorsese.
Ah mais moi il y a une scène de nourriture, c'est comme Ocean Eleven avec Brad Pitt, mais toutes les scènes Brad Pitt il est en train de manger, moi ça me donne terriblement faim, quoi. Il mange des nachos, des gyoza, des nouilles chinoises, chaque scène il est en train de manger, quoi. Comme s'il avait tout le temps trop faim pendant le tournage, on lui dit mais mange. Et à chaque fois il me donne faim, quoi. Et même dans le 2, il est tout le temps en train de manger.
Quoi. C'est vrai qu'il mâche souvent, il est...
Ah ouais, non, mais il est énorme, c'est des chewing-gums, c'est des sucettes, il met tout le temps un truc dans la bouche.
Mais merci pour cette carte blanche. Et on va passer à la transmission du cinéma, parce que tu parlais de toi en tant que producteur, c'est un métier du don.
Alors je ne suis pas encore, oui. J'apprends. Hein.
Mais on va dire apprenti producteur. Est-ce que toi, t'as un film que tu détestes et que pourtant tu recommanderais? Et pour quelle raison?
Ouais. Ouais, c'est compliqué parce que justement, enfin, le film qu'on déteste, c'est paradoxal comme question. Justement, film qu'on déteste. Alors, en fait, dans le sens, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs que une question de goût que j'aime pas, mais je reconnais qu'ils ont un talent. Enfin, c'est même pas à moi de le dire, mais ils ont quand même un talent immense, tu vois. Évidemment, on peut ne pas aimer, tu vois. J'aime pas les films de Tarkovsky, mais je reconnais qu'il y a quand même un truc technique et même sensible qui est incroyable, tu vois. Mais j'aime pas, tu vois.
Bah, c'est ça.
Dans ce cas-là, alors moi, ce serait les films d'Haneke, peut-être Le Ruban Blanc, tu vois. Mm-hmm. Genre, j'ai horreur de ce film, en fait. Et pourtant, je le trouve très intelligent, en fait, comment il est fait par rapport à cette introspection du mal par rapport au peuple germanique qui se raconte, qui met. Enfin, je sais pas, t'essayes de voir d'où vient le mal, en fait, quoi. Comment on en est pu à venir au nazisme et tout, quoi. Et comment c'était profondément dans les racines du protestantisme, des grandes familles prussiennes, ce truc très rigide, très dur, tout machin, quoi. Et je trouve ce film vachement, vachement intelligent, quoi. Mais pourtant, je trouve ça beaucoup trop froid, quoi. C'est des mecs qui ont le cœur froid, en fait. toute une génération de cinéastes comme ça qui ont le cœur froid. Et c'est marrant parce que
il parle de gens qui ont le cœur froid quand même.
Ouais, et Haneke, c'est marrant parce que lui, il disait ça dans le bouquin Haneke par Haneke, tu sais, avec les entretiens avec Philippe Rouillet, tout ça. Il dit concrètement dans un passage, il dit moi j'avais horreur des films de Fassbinder, des films où il y avait trop d'émotions, trop d'identification, machin et tout machin. Et parce que en fait, Haneke, ce qui le dérange, c'est les mecs qui vivent, quoi. Tu vois, je sais pas qui.
On se pose toujours la question chaque fois qu'il sort un film, de toute façon. Hein,
et c'est... ouais, et tu vois, c'est des mecs qui ont, je sais pas, pour moi, le cœur froid, quoi. On a eu toute une génération, tu vois, pendant les années 90, tu vois, 2000, même en France, tu vois, les Arnaud Desplechin, un peu même les Assayas, tout ça, tu vois, des mecs comme ça, tu vois, très, très, je sais pas, un peu guindés, tu vois, genre qui rigolent pas beaucoup, quoi. Et puis là, tu vois, on a le nouveau, tu vois, on a Mandico, tout ça qui arrive, tu vois, Gonzalez, des films qui prennent vraiment, tu vois.
Ouais, qui ont une dimension beaucoup plus lyrique.
Et très romantique, quoi, surtout.
Qui ont pas peur du romantisme, en fait.
Ouais, voilà, qui ont.
Et du kitsch, parfois, même.
Ouais, même, ouais.
Alors que tout doit être parfaitement revu, c'est clinique, en fait.
Peut-être.
Quoi, chirurgical,
ouais.
Presque, quoi.
Donc, peut-être, ouais, mais d'un autre côté, le ruban blanc, il est. Il est. C'est une. Ouais, c'est comme si les Allemands, comme ça, ils se regardaient dans le miroir, comme ça, et puis ils se doutaient, mais en fait, le mal, il est là, quoi, dans les yeux des gosses déjà qui ont 5 ans, quoi.
C'est ça qui est. Enfin, c'est terrifiant, en tout cas.
Donc, c'est terrifiant, et d'un autre côté, c'est. Enfin, je déteste. Bah, c'est paradoxal. Déjà, la question est paradoxale, donc ma
réponse,
c'est paradoxal. Donc,
c'est le
film
but.
Est joueur de ça, mais d'un autre côté.
Oui, t'as
ouais,
un sentiment
est...
un peu conflictuel, contradictoire sur ce film.
Ouais, bah bien sûr. Hein. Mais tu vois, ça me le fait avec plein de cinéastes. Tu vois, quand je vois des films de Kubrick, Kubrick, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais si, tu vois, il y a des films. Alors certes, c'est des prouesses techniques, même de Palma. Enfin, ça peut être des prouesses techniques. Mais comment il a fait pour mettre la caméra là et tout machin. Tu vois, bon, certes, tu vois, je trouve ça bien. Tu vois, c'est très bien techniquement parlant. Mais tu vois, moi, tu mets une caméra et un gros plan sur un mec, je sais pas quoi, d'une simplicité extrême. Je trouvais ça aussi magnifique. Tu vois, pour moi. J'aime bien ce qui est simple, ouais. Pas simpliste, mais simple.
Ouais, c'est difficile.
Donc, souvent, les cinéastes qui en mettent plein la vue comme ça, je suis, ouais, enfin, bah, tu vois, Gaspard Noé, je le trouve très. Ses films, je les trouve déjà très durs et très complaisants avec eux-mêmes.
Je suis d'accord. Et sinon, est-ce que, à l'inverse, il y a un film que t'adores, et que t'arrives pas à partager ou que t'as envie de garder pour toi, quelque chose que t'aimes tellement, mais. T'as l'impression que même si t'en parlais, que tu le conseillais, les gens comprendraient pas ou juste que t'as envie de regarder égoïstement.
Ah non, je le regarde pas, j'ai envie que tout le monde le regarde, mais c'est Southland Tales de Richard Kelly, ouais.
Ouais.
C'est une syncope collective monumentale, quoi. Genre c'est le film maudit par excellence, quoi. C'est le mec qui a voulu voir tellement grand, lui aussi il a voulu. C'est un film qui se passe en 2050 à Los Angeles, après la Troisième Guerre mondiale. Il y a peut-être une vingtaine de personnages. C'est un film qui est fait en 2005. T'as les néo-marxistes, t'as la surveillance générale, une femme qui... Enfin, comme s'il prévoyait déjà Hillary Clinton, machin, tu vois, genre les États-Unis dans lesquels ils sont, les actrices porno qui deviennent femmes politiciennes, tout machin. Enfin, tu vois, la télé-réalité qui nous bouffe, enfin, pas qui nous bouffe, mais... Enfin, tu sais, cette sorte de vacuité, tu vois, qui est là et qui prend tout l'espace et tout machin, tu vois. Tout ça se passe à la plage avec une révolution écologique parce que la lune, je sais pas quoi, enfin, l'océan, il a arrêté. Enfin, un truc complètement barré, quoi. Ou, enfin, il y a tout ça dans ce film, quoi. Et puis, en plus de ça, enfin, comme si l'acteur principal qui est joué par The Rock, enfin, le catcheur, là, comme si c'était une sorte de Jésus-Christ, un prophète qui annonçait la fin du monde et qui doit tout faire pour l'empêcher. Deux jumeaux, en fait, enfin, l'espace-temps, enfin, tu vois, dans le film, c'est des mecs qui reviennent en arrière. Enfin, c'est un truc de fou. T'arrives même pas à raconter, en fait. Et il y a tout dans ce film, quoi. C'est toute la folie des États-Unis, même du monde, dans ce film-là, quoi. Enfin, c'est. Enfin bon, c'est un des plus grands films du 21e siècle, quoi. Et le mec a voulu voir tellement grand. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a été au Festival de Cannes et tout le monde a voulu l'oublier, ce film-là, tu vois. Genre, il s'est fait siffler et tout à fond. Et je crois en 2012, quand Justin Timberlake, tu vois, il revient, tu vois, au Festival de Cannes et qu'on l'interview, il dit, tu sais ce qu'il dit ? Alors qu'il jouait dans Southland Tales et qu'il était venu à Cannes en 2005, il dit je suis super content parce que c'est la première fois que je viens à Cannes, tu vois. Et ça veut tout dire, tu vois,
c'est terrifiant,
genre,
ça aussi,
film, tout le monde a voulu l'oublier, c'est un film maudit. Mais et puis
ça a quasiment puis, ça a presque enterré sa carrière, hein, parce qu'il
ah mais complètement il après il a fait deux box et tout
Man,
machin
là,
mais,
qui est pas terrible,
mais t'inquiète pas, il a fait deux films, il peut mourir tranquille, hein.
Donnie Darko
et Southland Tales, c'est incroyable, quoi.
Et t'arriveras jamais à le vendre, enfin à donner,
bah c'est tellement dur à expliquer et tout machin, il est compliqué à trouver, en plus
ouais,
il est super dur à trouver, quoi. Je te dis, enfin, il est même plus sorti en salle en France, même aux États-Unis, il était annulé.
Ah ouais,
en
c'est
DVD,
complètement...
pas trop. Ouais, ouais, c'est un
non, c'est le film maudit par excellence.
Ah ouais, 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 non mais. Mais c'est un mec qui a voulu voir. Il a voulu voir tellement grand, quoi. Il a voulu tout mettre dans un film. Dans ce film-là, tu peux faire 20 films dans ce film-là, tu vois.
C'est ça, limite bouffé par son film, en fait. C'est...
Bah, il aurait dû faire un film de 20 heures, quoi, tu vois. Il aurait dû faire sa grande œuvre qui raconte la fin du monde, quoi. Mais ce film, c'est la Bible, hein. Bah, la première phrase du film, c'est ainsi que le monde se finit. Pas dans un dernier boom, mais dans un dernier murmure, quoi, tu vois. Dans un dernier chuchotement, je crois, un truc comme ça. Mmh. Enfin, c'est super beau, quoi. C'est biblique comme film. Enfin, c'est...
Bien sûr.
Biblique au sens où t'as l'apocalypse, la fin du monde.
Oui,
mais
il y a
un côté, tu vois, c'est.
Une fin et un début.
Il y a un espèce de prophète qui arrive, tu vois, un espèce de Christ un peu. Qui annonce un peu la fin des temps, machin. Il y a un truc. Ouais, c'est super beau.
Ça me fait penser à Cloud Atlas, mais dans une moindre mesure.
Ouais, c'est un peu ça aussi, ouais.
C'est
ouais,
une carrément. Même démarche, ouais, c'est vrai.
Un peu. Mm. Et on va finir par la question fétiche de Clément et de moi aussi.
Bah oui, la question de la fin.
C'est quel est ton film refuge ?
T'as le droit de citer un film déjà cité aussi.
Hein, oui, oui. Il faut m'aider un peu la cime
en refuge. Ton film en ce moment. Refuge, dans l'idée que c'est le film que t'aimes bien revoir, tu te sens bien dedans, tu peux le revoir tout le temps, enfin... C'est ton film privilégié, tu t'y sens comme dans un refuge en fait.
Bah ouais, moi c'est un court-métrage, ouais, Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, ouais, de Jonathan Vienne et Caroline Pudgy, ouais, j'ai dû le voir 40 fois ce film. D'ailleurs, ça s'en ressent dans ce que je fais malheureusement. Mais ouais, ce film, je l'ai vu tellement de fois. Donc je le trouve tellement beau, quoi.
Refuge parce que tu le trouves beau, parce qu'il t'influence.
Non, mais je le trouve surtout super beau, quoi. Il y a un côté vachement planant, complètement, je sais pas comment on dit, atmosphérique, ou je sais pas, enfin j'arrive pas trop à le décrire, mais il y a un côté t'as l'impression que le film c'est un tombeau, mais un tombeau qui est cool, enfin qui où tu te sens bien, quoi. T'as la mort qui est tout le temps présente, et pourtant tout est filmé comme ça, parce que c'est un mec qui son copain s'est suicidé, il veut aller le rejoindre, mais avant ça il veut trouver une famille à son frère, parce qu'il a pas envie qu'il soit tout seul. Donc tout le film, en fait, c'est comme si tu voyais tout pour une dernière fois, en fait, quoi. Les maisons, c'est la dernière fois que tu vas dans la piscine et tout machin. Il y a toute une violence qui est renfermée dans les plans, et pourtant c'est un truc qui est très très doux, quoi, très très tendre, quoi. Et ça dit un truc de l'adolescence, quoi, ce rapport à la mort, mais aussi un truc très doux, très tendre. C'est des mecs super super stock et tout machin, et pourtant il y a un truc. Et ce film, je le trouve super beau, quoi. Il y a les piscines, la banlieue, ces banlieues un peu mortes. Les maisons, elles se ressemblent toutes. Je le trouve super beau, ce film. Ouais. Ouais, je l'ai vu beaucoup de fois. Je l'ai en DVD, dans le DVD qui a été édité par JHD, je sais plus, je crois. Ouais, je sais plus, ouais.
C'est ceux qui faisaient leur projection avec Bertrand Mandico et Gonzalez.
Ouais, c'est ça. Ouais.
After School Night Fight, ouais, qu'on trouve dans Ultra Rêve. Et ils sortent leur long métrage. En avril ou mai, je crois.
En mai, bah, je crois. Bah, le 1er mai, je crois. Ouais, j'ai vu ça sur le cinéma.
Qui s'appelle Jessica Forever.
Jessica Forever, ouais.
Et qu'on attend.
Ouais.
Bon, bah, c'est une bonne façon de terminer. Hein.
Ouais. C'est la fin de la fin.
Ouais. Ouais. Donc, merci à toi, Gauthier. On remercie également Gabriel pour sa musique.
Oui,
Anna,
qui est magnifique.
Pour le logo. Et c'était une émission animée par Fan Montet.
Et Clément Coucoureux. Merci, Clément.
Mais de rien.
Allez là.